Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Bruno Morland. Aujourd'hui, nous recevons Didier-Marie Gollet pour parler du perfectionnement spirituel selon Thérèse d'Avila. Didier-Marie Gollet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric. Bonjour Didier-Marie Gollet. Alors, vous avez un parcours très intéressant, donc je vais très rapidement quand même l'évoquer parce qu'il va, il explique en fait ce que vous faites aujourd'hui et ce dont vous allez nous entretenir dans cette émission. Après des études techniques et quelques temps passés dans la vie professionnelle, vous êtes entré au grand séminaire de Dijon, ce qui vous a amené à l'issue de vos nouvelles études vers différents ministères. Puis, vous avez opté pour le noviciat et vous êtes donc entré au noviciat des Carmes des Chaux de la province de Paris. Puis vous avez passé une maîtrise de théologie, vous vous êtes spécialisé dans la patristique à l'Institut catholique de Paris, et depuis vous n'avez cessé d'approfondir votre engagement à la fois monacal et d'érudition, puisque en effet vous avez été provincial de la province de Paris de l'ordre des Carmes des Chaux. Vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est, parce que tous les auditeurs ne le savent pas avec précision, moi non plus d'ailleurs. Vous avez été prieur du couvent d'Avon, et maintenant vous êtes membre de la communauté du couvent de Lisieux. Et en même temps, donc, vous vous êtes consacré à l'étude et à l'érudition, en particulier à travers l'édition de textes de grands mystiques, je dirais même plutôt de grandes mystiques, puisque cette tradition de la mystique féminine vous intéresse tout particulièrement. Et c'est comme ça qu'en 1998, vous avez commencé un travail de présentation et annotation des œuvres d'Edith Stein, donc il y a eu plusieurs publications aux éditions du Carmel, ou alors vous avez publié un album sur Edith Stein qui s'intitulait « Devant Dieu pour tous » aux éditions du CERF, ouvrage qui a reçu le prix de l'humanisme chrétien. Aujourd'hui, vous publiez un très très beau livre, vraiment, dans lequel je me suis plongée avec un grand plaisir. C'est l'Atlas Thérèse d'Avila, et le sous-titre c'est « Aventurer sa vie, une sainte dans l'histoire et dans le monde ». Et en effet, dans cet ouvrage, il y a tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Thérèse d'Avila, parfois en osant le demander, mais en ne trouvant pas nécessairement la réponse. Et ce qui nous a beaucoup intéressés avec Frédéric, c'est qu'évidemment, il y a cette érudition historique dans cet ouvrage. Mais aussi, vous mettez beaucoup l'accent sur les textes de Thérèse, sur son cheminement intérieur, sur son enseignement spirituel. Et ici, aux racines du ciel, c'est évidemment le cœur de cet enseignement qui nous intéresse tout particulièrement.
Alors, avant d'y venir, parce que on va consacrer l'essentiel de cette émission au grand thème de la vie spirituelle selon Thérèse d'Avila, un petit mot pour les auditeurs qui connaissent pas du tout Thérèse d'Avila, en quelques minutes, vraiment juste, quelques repères biographiques.
Rapidement, on va dire qu'elle est née en 1515, qu'elle est morte en 1582, et j'aime à dire qu'elle est morte dans la nuit la plus longue de l'histoire, puisqu'elle est morte dans la nuit du 4 au 15 octobre, puisque c'était la fameuse réforme grégorienne, on récupérait 10 jours, donc Thérèse meurt un 4 octobre, et on se réveille le 15 octobre suivant. Dans cette vie, Thérèse va entrer d'abord au monastère de l'Incarnation, dans le monastère carmélitain, et puis en 1562, elle va fonder son propre Carmel, le Carmel Saint-Joseph, qui va donner naissance à ce qu'on appellera les Carmes des Chaux. Ça donnera peut-être tout à l'heure une réponse à Lélie. Et ensuite, en 1568, elle va être la réformatrice de la branche masculine. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important, puisque je crois que le Carmel des Chaussées est le seul ordre dans l'Église catholique qui est la branche masculine fondée par une femme. Elle va continuer un certain nombre de fondations, puisqu'elle aura 17 fondations de son vivant pour les sœurs. Elle-même participera à 2 fondations de frères, et il y aura une dizaine d'autres fondations, mais dont elle est indépendante. Et puis, elle va écrire un certain nombre de livres. Le livre de la vie, le chemin de perfection, le château intérieur ou les demeures qui sont le sommet, je crois, de son expérience spirituelle, le récit de ses fondations, et puis des poésies, des lettres. Voilà, on a tout un corpus très important.
Alors, elle était reconnue comme docteur de l'Église, donc c'est quelqu'un qui fait autorité sur toute l'Église universelle et qui a une forte postérité. Un mot sur les carmes d'Echaux. Alors, en quoi consistait sa réforme?
Alors, la réforme, elle a voulu revenir à la règle primitive, puisque le Carmel est né dans sa branche masculine à la fin du XIIe siècle. Et puis, les carmes sont venus en Europe, il y a eu la peste noire, donc une bulle de mitigation pour permettre un assouplissement, j'allais dire, de la règle. Et Thérèse, elle, a eu l'envie de revenir à cette règle primitive qui demande plus de solitude, plus de silence. Elle va le faire pour les carmélites d'abord, et puis elle se dit, je voudrais avoir des frères qui mènent le même genre de vie que mes filles pour qu'ils puissent les aider spirituellement. Et donc, elle va obtenir du père général des Carmes l'autorisation de fonder, au départ, deux couvents de ce que le père général appellera des Carmes contemplatifs. Alors, nous, on va leur donner le titre de Deschaux, parce que Thérèse fonde le Carmel déchaussé, c'est-à-dire pour signifier la pauvreté, on se déchausse. Hein. Mais c'était pas les seuls à l'époque, il y avait aussi les franciscains et bien d'autres, les déchaussés royales également à Madrid. Et donc, en fait, elle va demander des frères pour pouvoir fonder cette branche. Au départ, elle ne veut pas fonder un ordre. Elle veut rester dans l'ordre du Carmel, mais les difficultés humaines, politiques, religieuses vont amener une séparation d'abord en deux provinces séparées, puis ensuite en un ordre séparé. Donc aujourd'hui, il y a l'ordre des Carmes et l'ordre des Carmes déchaussés. Il n'y a plus une très très grande différence. À l'époque de Thérèse, il y avait effectivement une grande différence. Les Carmes ont eu ce qu'on a appelé la réforme de Touraine avec Jean de Saint-Sanson au XVIIIe siècle. Et du coup, ils ont replongé dans leurs racines et dans la dimension contemplative de leur vie, si bien qu'on est assez proche maintenant, si ce n'est que la grande différence, je crois, c'est ce qu'a institué Thérèse d'Avila, les deux heures de raison ensemble, au cœur, une heure le matin, une heure le soir.
Alors, puisque vous en parlez, c'est peut-être le premier thème qu'on va prendre pour parler de la spiritualité de Thérèse d'Avila. Donc, c'est quelqu'un, vous l'avez dit à travers ses ouvrages, qui a écrit de nombreux livres, de nombreuses lettres également. Vous nous disiez tout à l'heure entre 10 et 15 000 lettres.
Oui, bien sûr.
Donc, a beaucoup écrit. Donc, on connaît beaucoup de choses sur son message, qui est un message de perfectionnement spirituel dans lequel l'âme est appelée à grandir.
Oui.
Et l'oraison semble avoir une place très importante dans ces exercices spirituels. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'oraison selon Thérèse d'Avila?
Si vous voulez, je voudrais, pour bien dire ce qu'est l'oraison, reprendre une phrase de Thérèse, parce qu'elle définit l'oraison, mais elle donne deux phrases avant qui définissent bien les choses. La première phrase, c'est « J'attends tout de la miséricorde de Dieu ». C'est-à-dire que Thérèse croit en Dieu et croit en sa miséricorde, et c'est le socle sur lequel elle va construire. Deuxième phrase qu'elle écrit, « Personne, après l'avoir choisi pour ami, n'a été abandonné par lui ». Donc cette certitude qu'il y a un choix à faire, le choix de l'amitié avec Dieu, et ce choix fait que du côté de Dieu, il va y avoir une fidélité à notre égard. Et quand elle a posé ce fort socle, elle dit « L'oraison, à mon avis, n'est rien d'autre qu'une relation d'amitié seul à seul, souvent avec celui dont nous savons qu'il nous aime ». Et j'aime beaucoup le « savons qu'il nous aime », c'est-à-dire que c'est pas « nous sentons qu'il nous aime ». Thérèse va nous inviter à une intériorité, à une intériorisation, si vous voulez.
Et alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle va, dans ses écrits, énormément donner un très grand nombre de conseils pour justement expliquer quelles sont les étapes, les pièges, les dangers de l'oraison, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas craindre, comment s'abandonner, comment travailler, comment à un moment donné cesser de travailler. Donc elle a vraiment, peut-être, je n'ai jamais vu quelqu'un décrire avec autant de détails et autant de précision toutes les étapes, à la fois intimes, extérieures, physiques, spirituelles, de l'oraison.
Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois elle décrit le sommet, c'est-à-dire que c'est l'union à Dieu, voilà, il faut y aller franco, c'est l'union de notre volonté avec celle de Dieu, mais en même temps, elle va nous dire, mais si vous pouvez pas faire une heure, faites cinq minutes. Si vous pouvez pas penser à lui tout le temps, pensez à lui de temps en temps, souvent dans la journée, etc. C'est-à-dire que finalement, elle nous prend là où on en est, elle nous montre où on doit arriver, et elle nous donne finalement les moyens, petit à petit, de progresser sur ce chemin.
Mais est-ce que l'oraison, c'est quelque chose qui doit se faire avec un certain cadre rituel, par exemple, se mettre à genoux avec une bougie, etc. Ou ça peut se faire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, du moment que vous êtes seul et que vous pensez à Dieu?
Je pense qu'au départ, il faut qu'il y ait un cadre rituel quelque part. Enfin, je dirais, pédagogiquement, moi, j'invite souvent les gens à avoir quelque chose de rituel qui va les aider à débrayer de leur activité. Parce que finalement, faire oraison, c'est débrayer du faire. Or, c'est-à-dire, on est tous dans le faire, on le sait bien. Et c'est pas facile de débrayer du faire. Or, si on veut débrayer, j'allais dire, il faut qu'il y ait un petit quelque chose qui nous signifie à nous-mêmes qu'on va arrêter de faire tout ce qu'on fait. Et je crois qu'effectivement, se mettre à genoux ou changer de siège, allumer une bougie, ouvrir une Bible, regarder quelques instants une icône, ça nous permet finalement de nous mettre en présence. Hein. Parce que Thérèse d'Avila dit souvent, mettez-vous seul, mais cherchez la compagnie du Christ. Enfin, elle dit chercher une compagnie, mais on sait très bien que pour elle, cette compagnie, c'est celle du Christ Jésus.
Alors, vous citez dans votre ouvrage un certain nombre de textes de Thérèse, très très bien choisis, je dois dire. Pour Merci. Certains, d'ailleurs, vous les expliquez, vous montrez bien en quoi ils viennent expliquer un point ou un autre. Alors, il y en a plusieurs, évidemment, sur l'oraison, mais je dois vous avouer que mon préféré, c'est celui que vous intitulez « Les quatre manières d'arroser ». Dans lequel elle utilise cette métaphore et elle explique non seulement que l'oraison est une façon d'arroser le jardin intérieur, mais aussi qu'il y a différentes formes d'oraison. C'est ça qui m'a le plus touchée en fait dans ce texte. Il n'y a pas une seule façon d'entrer en oraison. Il y a différentes façons et peut-être la plus suprême, la plus subtile, la plus aboutie, c'est celle où on ne fait rien précisément. Celui qui commence à faire oraison doit se représenter qu'il entreprend de transformer un terrain entièrement inculte et couvert de mauvaises herbes en un jardin d'agrément pour notre Seigneur. C'est le divin maître lui-même qui arrache les mauvaises herbes et plante les bonnes, et nous supposons que ces choses faites lorsqu'une âme a résolu de s'adonner à l'oraison, que déjà elle s'y exerce. Notre tâche à nous en tant que bons jardiniers est de travailler avec l'aide de Dieu à cultiver et arroser les plantes afin de les empêcher de mourir et de leur faire produire des fleurs embaumées pour recréer ce bon maître. Alors il viendra souvent se délecter dans ce jardin et se réjouir au milieu de vertus. Pour moi, il me semble qu'il y a quatre manières d'arroser. On peut d'abord tirer péniblement l'eau d'un puits, on peut aussi se servir d'une noria et de godets mis en mouvement au moyen d'une manivelle, et moi-même je m'en suis servi quelquefois. On se fatigue moins et l'on obtient une plus grande quantité d'eau. On peut encore amener l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau, l'arrosage est alors plus complet, la terre s'imbibe d'eau plus profondément. Il n'est pas nécessaire d'arroser aussi souvent et le jardinier n'a pas, à beaucoup près, autant de fatigue. Enfin, il y a une pluie abondante et c'est sans comparaison la meilleure de toutes les manières. Le Seigneur, dans ce cas, arrosant lui-même, sans aucun travail de notre part.
Thérèse n'enseigne jamais du haut d'une chaire avec des idées, intellectuelles, mais toujours elle part de son expérience. Elle ne cesse d'ailleurs de dire « Je ne vous dirai que quelque chose que j'ai expérimenté ou que j'ai vu expérimenter par d'autres ». Et du coup, j'allais dire, ça nous rejoint beaucoup plus parce que c'est extrêmement concret.
Et en fait, justement, ce qui est intéressant pour nous, simples mortels, si je puis dire, qui cheminons, c'est que moi j'ai très, très souvent trouvé chez Thérèse justement dans cette description par exemple de la difficulté, quand elles disent parfois c'est aride, ça fatigue, c'est sec, elle donne les moyens de traverser aussi ces difficultés-là, parce que c'est pas facile quand on commence quand
mais
même
c'est l'oraison. Pas facile, non, bien sûr. Et justement, elle nous invite toujours à revenir à l'essentiel. Et quand la pluie ne tombe pas du ciel, il faut qu'on tire l'eau du puits, et c'est un travail. Et en fait, on peut dire que dans l'oraison, il n'y a pas une espèce de progression linéaire. Mais en fait, on peut très bien avoir très rapidement la pluie qui tombe du ciel, et puis passer après par un long temps où il faudra tirer l'eau du puits, et puis la pluie va retomber du ciel à nouveau, et finalement, c'est une vie avec toutes les évolutions possibles, quoi.
Oui, en fait, il ne faut pas chercher un résultat dans l'oraison.
Non.
Et c'est ça la clé. Et là, ça ressemble un petit peu, effectivement, à toutes les pratiques d'intériorité, qu'elles soient l'oraison, la méditation, etc. C'est que ce qui compte, c'est de le faire. Ce qui compte, c'est d'être présent.
Il y a une gratuité, c'est d'être là.
Voilà, une gratuité.
Ouais.
Et c'est comme un. C'est comme. Il se passe quelque chose, même si on ne ressent rien.
Même si on ne ressent rien, tout à fait. Oui, oui.
Mais alors là, je rejoins une question qui est très actuelle par rapport à la méditation. On a reçu beaucoup de gens qui nous parlent de la méditation. On voit bien que toute la difficulté, c'est évidemment, et c'est un des buts de la méditation, c'est quand même d'y arriver, c'est qu'on est pris par des pensées. C'est-à-dire que tout le temps, il y a des pensées qui arrivent, etc. Alors, est-ce qu'on apprend, quand on apprend à méditer, on apprend à observer ses pensées, les laisser passer? Il y a des petites techniques qui sont données, qui aident les gens. Est-ce que on apprend à faire oraison un peu de la même manière? C'est-à-dire, ce qu'on dit aux gens quand vous enseignez à des gens à faire oraison, et qu'ils vous disent « oui, mais j'y arrive pas parce que sans arrêt j'ai des pensées », comment vous les aidez à être présents?
La première chose que Thérèse nous invite, c'est vraiment à descendre au fond de notre cœur. C'est-à-dire qu'il faut que je débraye du fer, mais il faut aussi que je débraye de ce traquet de moulin, comme elle dit, qui m'emmène partout. Et il faut descendre dans son cœur. Et ça prend peut-être un petit peu de temps. J'allais dire, il faut habiter son corps et s'intérioriser. Et là, si les pensées passent, j'allais dire, c'est pas un problème. Thérèse d'Avila dirait, si les papillons passent dans le ciel, ben laissez-les passer. Le problème, souvent, c'est que nous, on ramasse notre filet et on court après les papillons pour essayer de les attraper. Et c'est là le danger. Alors, si je cours après les papillons, mais il faut que je me réintériorise. C'est-à-dire que là, je peux, je dis souvent aux gens, vous pouvez relire un verset de l'écriture, réouvrir les yeux sur l'icône, regarder la croix, c'est-à-dire se recentrer à nouveau sur la présence du Christ. Puisque, pour Thérèse, je vous le disais tout à l'heure, la première chose qu'on a à faire après s'être posé, c'est de chercher cette présence du Christ. C'est d'être en présence de quelqu'un. C'est-à-dire, je suis pas tout seul avec moi et mes pensées, je suis avec le Christ.
Alors ça, c'est un thème aussi majeur de Thérèse, c'est qu'effectivement, elle dit qu'elle a essayé à un moment donné de chercher Dieu directement, et puis elle dit finalement, on ne va à Dieu que par le Christ.
Exactement. Oui, tout à fait. Elle avait lu un certain nombre d'auteurs spirituels qui disaient qu'à partir d'un certain moment, on pouvait laisser l'humanité du Christ, l'humanité de Jésus, et Thérèse dit, non, là, je me suis complètement trompé.
Parce qu'on est dans l'imaginaire, sinon.
On est dans l'imaginaire, on est dans un magma où on se retrouve avec tout le monde, mais avec personne, j'allais dire, quelque part. Et Thérèse dit, il faut revenir à l'humanité du Christ. Elle dira même au plus haut degré de la vie spirituelle, nous ne pouvons pas nous passer de la sainte humanité.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Nelly Onvar.
elle dit en même temps qu'il faut passer par le corps. De même qu'il faut passer par l'humanité de Jésus, il faut passer par un engagement vraiment dans lequel le corps est tout aussi impliqué que l'âme. Elle a toutes ces images où elle dit en fait le corps est fait à l'image de cette humanité de Jésus-Christ et que donc... chez elle, c'est très très intéressant, cette présence très forte du corps, alors qu'on peut imaginer que la grande sainte, fondatrice de l'oraison, serait complètement perdue dans des idées métaphysiques. Pas du tout, elle est très très incarnée, Thérèse.
Ah, très. Très. Elle a un corps qui l'a fait souffrir d'ailleurs, mais elle nous invite aussi à être à l'écoute de notre propre corps. Et je crois que faire oraison, se mettre en oraison, c'est déjà faire attention à son corps. Je ne ferai pas oraison de la même manière si je me mets à genoux sur un petit banc, ou si je me mets assis sur une chaise, ou si je me mets debout. Et finalement, ma relation avec le Seigneur va dépendre aussi de mon attitude corporelle.
Et c'est pour ça qu'on la représente dans ces extases impliquées, évidemment, corps et âme, c'est le cas de le dire.
Oui, bien sûr.
La vit dans son corps.
Bien sûr, bien sûr.
Et pas que dans ses représentations, c'est-à-dire qu'elle a un langage assez érotique, même dans la manière dont elle parle de l'extase, de l'union au Christ. Il y a des mots, il y a des expressions qui sont quand même très charnelles.
Il y a des expressions charnelles, je dirais pas érotiques pour ma part, mais je pense qu'on les connote... érotique aujourd'hui, je pense qu'à l'époque de Thérèse ou avec le langage de Thérèse, c'est pas forcément une connotation érotique, mais en même temps le corps participe effectivement, comme elle dit à la fois, elle dit, c'est très ambigu parce que de temps en temps elle dit le corps n'y participe pas et de temps en temps elle dit il n'est pas sans y participer et beaucoup. Donc à la fois c'est pas corporel et à la fois c'est corporel quand même.
Alors l'autre aspect du corps qui m'intéresse beaucoup chez Thérèse, c'est la question de la souffrance. Ce qu'elle vit comme étant cette sublimation, évidemment, de tous les plaisirs, en fait, physiques, dans l'acte d'oraison, c'est toujours très proche aussi de la souffrance. Il y a chez elle un vécu de la souffrance qu'elle arrive à sublimer, comme si c'était un passage obligé.
Thérèse souffre dans son corps, ça c'est clair. Elle a eu cette grave maladie peu de temps après son entrée au monastère, qui va laisser des traces quasiment toute sa vie. Hein. Et puis on sait qu'elle a eu un certain nombre de difficultés physiques. Ce qui va l'aider à sublimer cela, ça va être la lecture du livre de Job, dans les morales de Saint Grégoire. Et donc là, elle va prendre appui sur l'écriture pour cela. Ce qui va l'aider, je pense, c'est également la passion du Christ. Hein. C'est-à-dire, bon, vous savez qu'elle va vivre cette grande conversion en voyant un Christ à la colonne. Hein. Donc avec toute cette passion du Christ, où elle se dit « Il a souffert et s'est livré pour moi hein. ». Et où elle va finalement, comme épouse du Christ, d'une certaine manière, vouloir participer à sa souffrance, enfin, ou donner sens, plus exactement, à sa souffrance à travers la passion du Christ.
Elle en fait aussi une forme d'oraison. Là, vous citez un texte qui est très, très intéressant. C'est extrait d'une lettre au père Jérôme Gratien. Il est très, très intéressant. « Oh, que c'est bien là l'oraison véritable, et non ces quelques goûts qui ne tendent qu'à nous satisfaire et rien de plus. » Lorsqu'on en est là, que de lâcheté, de crainte, de chagrin de se voir peu estimé. Pour moi, je ne souhaite pas d'autre oraison que celle qui fait croître les vertus. Si elle est accompagnée de grandes tentations, de sécheresses, d'épreuves, et que tout cela me laisse plus humble, je la regarderai comme une excellente oraison. Car enfin, ce qui plaît davantage à Dieu, telle est à mes yeux l'oraison la plus haute. N'allons pas croire que celui qui souffre ne prie pas. Alors pourtant qu'il offre à Dieu sa souffrance. Il prie souvent beaucoup plus que celui qui se casse la tête dans sa solitude et qui, s'il a tiré de ses yeux quelques larmes, se figure avoir fait oraison. Donner sa souffrance à Dieu et ça devient une oraison encore supérieure à la recherche du bien-être que proposent certaines formes de méditation. Vous voyez, enfin, c'est pour ça que je tenais à ce qu'on parle de ce sujet.
Oui, ce texte est très beau et très difficile en même temps. Alors, je pense que Thérèse parlera d'offrir sa souffrance. Je pense qu'on dirait aujourd'hui, enfin moi c'est au moins le langage que je tiens, je dis « je m'offre souffrant ». qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que je pense que s'offrir souffrant, c'est s'offrir soi-même. Or, pour Thérèse, je pense que quand elle dit qu'elle offre sa souffrance, elle s'offre elle-même. Voilà, c'est ça. Hein.
Dans un état de souffrance qui n'a pas été choisi d'ailleurs,
qui n'est pas choisi, tout à fait.
C'est pas le dolorisme.
Ouais. Non, et ce qu'elle met en parallèle ici, vous l'entendez bien, c'est on peut penser à la passion du Christ et en tirer finalement des larmes, etc. Mais ça va être notre sensibilité, ou j'allais dire avec un peu d'ironie, notre sensiblerie. Et Thérèse nous dit, mais c'est pas la sensibilité, c'est pas la sensiblerie qui compte, c'est finalement le don de soi. Et aucun état ne peut nous empêcher de nous donner. C'est-à-dire que aucune souffrance, aucun état psychologique, aucun état affectif ne peut m'empêcher de me donner à Dieu tel que je suis. Et c'est ça qu'elle nous enseigne finalement. Et loin de penser que c'est quelque chose qui est difficile pour nos contemporains, je pense que ça peut être une source de liberté, de libération pour nos contemporains, de savoir qu'on peut aller à Dieu tel qu'on est, avec nos souffrances physiques, avec nos souffrances affectives, avec nos souffrances psychologiques, que finalement rien de ce qui fait partie de mon humanité n'est un obstacle à l'union avec Dieu et à la rencontre avec lui.
Alors ce qu'elle dit aussi dans ce texte, c'est que l'oraison, c'est aussi de l'action. Parce que tout à l'heure on a parlé de l'oraison, on se met à genoux, on prie, bon il y a des moments, il y a des temps d'oraison, qui sont d'ailleurs des sortes de rendez-vous qui sont pris avec le bien-aimé divin. Mais de ce que j'entends de ce texte et de sa vie, de tout ce qu'elle a accompli, c'est que finalement l'oraison devrait, au bout de quelque temps, devenir un état permanent. C'est-à-dire tout ce que l'on fait, si c'est fait dans l'intention du contentement divin, si c'est fait pour précisément se perfectionner spirituellement, c'est une forme d'oraison et peut-être une forme d'oraison encore supérieure.
Tout à fait. Oui, pour elle, c'est une des nouveautés, j'allais dire, de Thérèse, de présenter justement à ses filles la dimension apostolique de l'oraison. C'est-à-dire, je ne fais pas oraison simplement pour mon épanouissement personnel, mais je fais oraison pour le Seigneur et pour qu'il soit davantage connu et aimé dans le monde. Même si, apparemment, je ne fais rien. Le paradoxe, c'est la petite Thérèse de Lisieux, hein, ne sortant jamais de son Carmel de Lisieux, étant nommée patronne des missions à l'égal de François-Xavier. Hein, où on voit bien que là, une vie de prière et une vie offerte a un rayonnement absolument extraordinaire. Or ça, c'est l'intuition fondamentale de Thérèse. De se dire, l'oraison va avoir un but apostolique, c'est-à-dire que l'oraison n'est pas simplement, c'est pas simplement une espèce de bulle, moi, Dieu, Dieu et moi, hein, mais voilà, l'oraison, c'est Dieu qui travaille en moi, et ce travail en me transformant va aussi transformer le monde.
Mais ça, est-ce que c'est typiquement thérésien? Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent lu, entendu dans la spiritualité chrétienne. Bruno de Chartreux disait déjà que si on allait s'enfermer toute sa vie, couper des hommes, c'est pour être encore plus présent au cœur du monde. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se sanctifie, c'est l'humanité entière qui est sanctifiée. C'est un thème assez répandu dans le substrat même de la vocation contemplative.
Je crois quand même que Thérèse donne une petite coloration missionnaire dans le chemin de perfection au chapitre 1, au chapitre 3. Elle va justement donner cette dimension à l'oraison en disant que l'oraison est une activité missionnaire.
Oui, non, puis au-delà, ce que moi j'ai compris, c'est que au-delà de l'acte d'oraison, le fait même d'agir dans le monde, pour elle, elle a quand même été extraordinairement active malgré la maladie. Je veux dire, elle a voyagé, elle a fondé des choses, elle a enseigné, elle est allée voir les gens, elle s'est battue.
Oui.
Vraiment pour établir des choses. Entre autres, d'ailleurs, si j'ai bien compris, il y avait aussi une dimension sociale dans son travail. C'est-à-dire qu'elle accueillait, en fait, comme sœur, des femmes qui, normalement, n'auraient pas eu le droit, parce qu'elles, de leurs conditions sociales, n'auraient pas eu le droit d'avoir accès. Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, parce que c'était très aristocratique à l'époque, très réservé à une élite aristocratique. Donc, elle a aussi une action sociale, je veux dire, une action envers le monde, que ce soit le monde des démoniales, enfin, je ne sais pas si on l'appelle démoniales.
Oui, démoniales, bien sûr.
Et donc, elle a cette action aussi vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des gens. Enfin, elle agit dans le monde et elle considère que c'est une prière. Sinon, une oraison, au moins une prière.
Ah mais oui, mais j'allais dire, les deux heures d'oraison ne sont là que pour que toute notre vie se déroule en présence et en amitié avec le Christ et dans une action. Vous savez, c'est le sommet du château intérieur, quand on est dans les septièmes demeures. Mmh. Thérèse d'Avila écrit à ses filles en leur disant « L'union à Dieu consiste en des œuvres ». C'est-à-dire que l'union à Dieu consiste pas à jouir de délices extraordinaires, mais finalement à
être dans l'action. Alors justement, ça tombe bien que vous parliez des demeures, parce que on sait qu'elle a établi un certain nombre de demeures. Est-ce qu'on pourrait, vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont ces sept demeures, assez brièvement, mais qu'on comprenne un petit peu quel est le sens du cheminement dans ce perfectionnement spirituel?
Alors, la difficulté justement des demeures, c'est que si vous évoquez les sept demeures comme étant un cheminement spirituel, c'est-à-dire vous faites un contresens avec Thérèse.
Pourquoi?
Parce que pour Thérèse, elle le redira à plusieurs reprises, mais on passe à mon avis, hélas, trop souvent sur ces petites phrases. Elle nous dit « Attention, les demeures ne sont pas comme des appartements alignés les uns derrière les autres ».
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une succession.
Vous n'allez pas passer de la première à la deuxième, puis de la deuxième à la troisième. Elle dira, par exemple, vous passez de la première à la troisième, de la troisième à la cinquième. Mais après, vous allez pouvoir retomber dans la deuxième.
Donc, ce sont des états, les demeures, c'est quoi?
Comme on évoquait tout à l'heure les quatre manières d'arroser. Il y a des moments où il pleut, il y a des moments où c'est sec. Pour les demeures, c'est pareil. Il y a des moments où on va être dans la sixième demeure et puis on va retomber peut-être dans la première demeure à cause de différents événements qui nous arrivent. Et puis voilà, on passe finalement d'une demeure à l'autre en sautant même parfois des demeures.
C'est intéressant, mais alors maintenant, quelles sont les différentes demeures qui qualifient différents états de vie spirituelle?
On va les prendre tranquillement les unes après les autres, si vous
tout
voulez.
Tout en sachant qu'on peut passer de l'une à l'autre, donc ça, on a compris. C'est important, parce que vous avez raison,
c'est très important
que de les voir comme effectivement un chemin sur lequel on peut parvenir.
Parce qu'effectivement, si on est uniquement dans une progression linéaire, on va se tromper avec ce que Thérèse nous enseigne.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Voilà, on va avoir sept demeures. Alors, on va voir les trois premières où Thérèse nous explique que c'est d'abord notre travail à nous. Un travail où on va apprendre à se connaître. Un travail où on va vivre un certain nombre de ruptures par rapport à ce qu'on a vécu avant pour réorienter, j'allais dire, notre désir, réorienter notre vie. Où on va commencer, entre guillemets, à acquérir quelques vertus. Alors Thérèse nous dit attention parce que comme vous allez en acquérir assez vite quelques-unes, croyez pas que vous êtes arrivé. Et puis vous mettez pas tout de suite à vouloir enseigner les autres. Voilà. Donc, elle nous invite à aller tranquillement dans ses demeures. Puis, il y a les fameuses quatrièmes demeures qui sont la jonction entre les trois premières et les trois dernières. Qui sont, elle a un très beau symbole, c'est le symbole des deux bassins. Vous avez un bassin qui se remplit avec l'eau qu'on amène d'un aqueduc et vous avez l'autre bassin qui se remplit avec une source qui est au cœur même du bassin. Et finalement, Thérèse se sert de cette image pour dire c'est le moment où l'action de Dieu et notre action sont un peu en concurrence, si vous voulez. Et où il va falloir qu'on apprenne à plus être volontariste et à faire par nous-mêmes, mais à se laisser faire par Dieu. Et c'est un passage qui est extrêmement important pour elle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on détecte à quel moment... On va lâcher prise quelque part pour permettre à Dieu de continuer son œuvre en nous, tout en collaborant à cette œuvre. C'est-à-dire que c'est pas de la passivité, je fais plus rien. Hein. Mais je me rends disponible à l'action de Dieu en moi. Et alors après, elle nous emmène dans les trois dernières demeures, les cinquièmes, les sixièmes et les septièmes demeures, avec deux symboles importants, le symbole du ver à soie, qui devient petit papillon avec la chrysalide, et puis le symbole du mariage spirituel, avec pour les cinquièmes demeures la première rencontre, pour les sixièmes demeures les fiançailles, et les septièmes demeures le mariage. Et où là, on va peu à peu, finalement, vivre le mystère pascal. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir que je meure à moi-même pour vivre vraiment à la vie du Christ. Cette mort à soi-même qui n'est pas un anéantissement ou une négation de ce que je suis, mais qui est le renoncement à ma volonté propre, le renoncement à mon jugement propre, le renoncement à cet ego qui m'envahit, pour finalement laisser mon être de fils et de fille de Dieu s'épanouir pleinement.
Alors justement, là, vous avez parlé de texte, de style. Ça, c'est un point aussi extrêmement important de l'apport de Thérèse, c'est qu'elle invente un langage. Elle écrit des textes dans toutes sortes de styles différents. Vous dites même qu'elle écrit des choses un peu burlesques. Enfin, elle connaît très très bien les ressorts littéraires et elle-même, elle invente en fait un langage qui est le langage de l'amour mystique, en langue, en tout cas dans la langue vernaculaire en réalité.
Tout à fait. Je crois que c'est quelque chose qui lui est donné en fait très souvent. Dans Thérèse s'extasie de ce qu'elle a écrit. Elle dit je ne pensais pas pouvoir dire si bien ce que j'ai dit. Et c'est vrai que très très souvent on la voit s'émerveiller de ce qui lui est donné dans l'écriture. C'est vrai qu'elle n'écrit en fait tous ses écrits quasiment en dehors des lettres sont des écrits qui lui sont demandés par ses supérieurs.
Et ses poèmes? Alors, il en reste très très peu.
Alors malheureusement, il nous reste qu'une trentaine de poèmes, à peine une quarantaine de poèmes de Thérèse. Elle en a écrit beaucoup plus, ça on le sait, mais qui ont tous disparu. Alors souvent, les poèmes sont écrits pour des fêtes religieuses ou pour des célébrations communautaires, des moments festifs de Noël ou de la profession d'une sœur, etc. Et on a quelques poèmes, on en a neuf en fait, qui sont simplement des élans mystiques où Thérèse dit que elle n'a pas pu, elle était prise par une espèce de bouffée d'amour pour le Christ et qu'elle n'a pu s'en sortir, si j'ose dire, qu'en mettant sur le papier ce qui l'habitait au plus profond d'elle-même.
Elle croit beaucoup que la poésie est peut-être le seul langage qui peut exprimer cet indicible.
C'est ce que disait Jean de la Croix. Et vous savez, le lien qu'il y a eu entre les deux, ils ont été à l'incarnation quand elle était prieure, il était confesseur, et ils se voyaient régulièrement. Et c'est vrai que Jean de la Croix dira que seule la poésie peut dire l'indicible parce que elle est symbolique et qu'elle laisse ouvertes tous les possibles.
Moi, j'aimerais qu'on vienne sur des choses concrètes.
Oui.
Je sais que le langage spirituel intéresse beaucoup Lily, mais je pense que ce serait bien que vous expliquiez un petit peu ces trois premières demeures, parce que vous disiez, c'est au fond, c'est le travail que chacun peut faire, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est demandé, et je pense que ça pourrait intéresser certains de nos auditeurs qui ont la foi, de savoir quels sont les efforts, les attentions, les exercices spirituels, les attitudes que prône Thérèse dans ce chemin de vie spirituelle. Rituel qui relève un peu de nous.
Oui, elle va nous inviter déjà à une certaine unité de vie, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que elle va dire, ben on est habitué à se disperser, à aller de tous les côtés, et le premier travail qu'elle nous demande, c'est de réhabiter notre corps finalement. Ça c'est le grand conseil qu'elle dit. Elle dit, le château, il y a pas de problème, le château c'est nous. Donc, on est dans le château. Le problème, c'est qu'elle dit, il y a une différence entre y être et y être. C'est-à-dire que je peux très bien être sur la tour de garde, sur le pourtour du château, et jamais aller à l'intérieur. Et donc, les premières demeures, ça va être tout le travail qui va consister à s'intérioriser. C'est-à-dire à fermer un petit peu, si j'ose dire, les sens extérieurs pour entrer à l'intérieur. Et là, Thérèse dit, c'est un travail difficile au départ. Alors, elle nous recommande pour cela la méditation de l'Écriture, de lire l'Écriture, de nous mettre en présence du Christ, de prendre une scène. Alors elle va dire une scène où le Christ est seul, parce que quand il est seul, il supportera davantage notre compagnie. Hein. Et donc finalement, prendre l'habitude pour pouvoir traiter avec lui comme avec un ami. Et alors, une fois que l'amitié va être nouée, mais il y a des renoncements qui vont pouvoir être faits. Parce que cette amitié qui va exiger davantage. Elle va exiger davantage au niveau du temps. Elle va exiger davantage au niveau de la manière de vivre. Et du coup, fortifiée par cette amitié naissante, il y a des ruptures que nous allons pouvoir faire avec des mauvaises habitudes qu'on a pu prendre, etc. Et Thérèse nous invite finalement petit à petit, alors elle donne différents exemples hein, dans les demeures, mais elle est toujours assez large pour que finalement chacun puisse appliquer à lui-même. Ça c'est le côté intéressant de Thérèse et un peu, je veux dire, c'est à la fois intéressant et puis un peu frustrant, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas des choses extrêmement précises et concrètes.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites déjà, c'est que Thérèse insiste sur le fait qu'on va pouvoir mener une vie vertueuse parce qu'on a d'abord une relation d'amour avec le Christ et que c'est cet amour qui nous donnera envie d'être vertueux et pas l'inverse.
Et voilà.
Alors que souvent, dans l'histoire de l'Église, on a un peu inversé les choses dans la pratique pastorale. Soyez vertueux, vous pourrez accéder au Christ.
C'est exactement l'inverse, tout à fait. Tout à fait, c'est le Christ qui est premier. Et elle nous dit justement que au départ, ça va être difficile parce que on va pas se sentir très très à l'aise avec lui parce qu'elle dit il est tellement différent de nous
que on a une vie dissolue,
on va plutôt avoir envie de se sauver. Elle dit mais non, restez parce que de toute façon, lui, il s'est fait votre compagnon. Ça c'est le côté absolument génial de Thérèse. On est dans le temps de Noël encore et Thérèse dit qu'est-ce que c'est que l'incarnation du Christ Jésus ? C'est l'amitié qu'il a voulu nouer avec le genre humain. C'est-à-dire qu'elle définit le mystère de Noël, de la nativité, comme l'amitié que le Christ, fils de Dieu, veut nouer avec les hommes. Donc c'est ça qui est au départ. Et effectivement, c'est de là que tout va dépendre.
Oui, cela dit, elle n'est pas, peut-être dans les demeures, un peu moins concrète, mais quand même, dans le chemin de perfection, elle parle de ses pensées qui peuvent advenir, comment les jalousies, les colères,
dans le chemin de perfection,
les désamours,
elle
etc.
pose le fameux socle, le trépied pour permettre la vie d'oraison. Hein, ce trépied qu'elle définit comme étant l'amour mutuel, enfin l'amour fraternel, le détachement, ce qu'elle appelle le détachement du créé, et puis l'humilité. L'humilité dont elle dit, bien que je la cite en troisième, c'est la plus importante des trois. Et c'est sur ce trépied-là qu'elle va demander qu'on fasse oraison. Elle dit, finalement, n'allez pas faire oraison s'il n'y a pas ces trois vertus-là au départ. Parce que, enfin, n'allez pas faire raison. Elle dit à ses sœurs, vraiment, travaillez d'abord à cet amour mutuel entre vous, à ce détachement du créé, à cette humilité pour pouvoir progresser dans la vie d'oraison.
Oui, c'est-à-dire l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Et voilà, en réalité, c'est un cercle vertueux qui s'installe.
Je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est d'abord l'amour du Christ qui va nous permettre d'acquérir les vertus et les vertus qu'on va acquérir vont renforcer cet amour du Christ et amour du Christ qui va aussi pour Thérèse en parallèle avec l'amour des autres hein. Dans le château intérieur on va dire Thérèse dit vous voulez savoir mes sœurs si vous avez fait des progrès dans l'amour de Dieu, regardez si vous avez fait des progrès dans l'amour de vos sœurs. Car autant vous faites de progrès dans l'amour de vos sœurs, autant vous faites de progrès dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que amour de Dieu, amour du prochain vont ensemble. Mais ça, c'est ce que dit l'Évangile.
Oui, mais c'est vrai que c'est touchant de voir qu'effectivement, qu'il y a toujours chez elle le concret et l'abstrait, le corps et l'âme. Elle ne dissocie jamais ces choses. Et c'est vraiment... C'est une vision très holistique,
oui.
Dont on n'a pas l'habitude. C'est quand même très particulier.
Pour elle, Marthe et Marie vont ensemble. Alors que habituellement, on nous présente Marthe comme celle qui travaille et Marie comme celle qui est contemplative. Pour Thérèse d'Avila, mais elle le dit au moins 4 fois dans différents écrits, Marthe et Marie vont ensemble. Et moi, je dirais, il faudrait plus parler de contemplative et d'active, mais de contemplative finalement. C'est toujours un nouveau mot. Mais...
Alors Thérèse, elle est connue aussi et pour être une sainte qui a eu des extases, des ravissements, des phénomènes mystiques assez exceptionnels. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot, même si c'est, bon, encore une fois, pas l'essentiel sans doute de son message, mais c'est quand même, elle a vécu des événements de vie intérieure particuliers qui ont frappé ses contemporains.
Je crois qu'elle a vécu des événements extraordinaires qui l'établissaient dans sa grâce de fondatrice. Jean de la Croix dira d'ailleurs, quand il évoque un certain nombre de choses, que Thérèse d'Avila a rassemblé finalement en elle toutes les grâces particulières de la fondatrice.
Alors donnez-nous quelques exemples de...
Alors, moi, je pense que la plus grande grâce... Il y a deux grandes grâces que j'aimerais évoquer pour Thérèse, vous allez comprendre pourquoi, c'est la transverbération.
C'est quoi ça?
Thérèse raconte qu'elle voit à sa gauche un petit ange qui tient une flèche d'or, le bout étant embrasé de feu, et qui la lui plante à travers le corps et qui la retire. Et moi j'aime à dire que ça c'est une expérience où Thérèse va communier à l'amour sauveur du Christ pour l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, ce dard qui pénètre le cœur de Thérèse, c'est l'amour de Dieu qui pénètre son cœur pour rendre son cœur au rythme du cœur divin.
C'est un peu comme les stigmates de saint François. On est...
Quelque part, oui. Oui, je pense que c'est...
une identification au Christ.
C'est une identification au Christ.
Oui, c'est ça que représente le Bernin, d'ailleurs. Dans
oui, c'est ça. La très belle sculpture du Bernin qui est en couverture. Voilà. Et puis, une deuxième grâce qui est extraordinaire. Enfin, pourquoi j'insiste sur cette deuxième grâce? Parce que Thérèse dit que c'est la plus grande grâce qui lui a été faite. Alors, quand je vais vous dire la grâce dont il s'agit, vous allez être étonnés. C'est la vision de l'enfer. Thérèse, en 1560, a une vision de l'enfer. Et elle dit, ça c'est la plus grande grâce qui m'a été faite. Alors, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Alors, en fait, rassurez-vous, l'enfer chez Thérèse, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de... Voilà, c'est un espèce de réduit très sombre avec une eau fangeuse. Thérèse aimait beaucoup la propreté, donc forcément, l'enfer, c'est pas propre
c'est
du
sale.
Tout, c'est sale, ça sent pas bon, c'est réduit, elle aimait beaucoup les grands horizons, alors c'est réduit, etc. Mais Thérèse dit... que c'est la plus grande grâce, parce qu'elle dit, en fait, ça m'a montré que j'ai été sauvé par le Christ. Et ça, c'est la plus grande grâce qui lui est faite, c'est-à-dire que elle se rend compte que le salut n'est pas quelque chose de général, mais qu'il a rejoint elle. Et du coup, ça va donner force à son esprit missionnaire, parce que, ayant expérimenté qu'elle était sauvée par le Christ, elle va avoir le désir de prier et de faire prier ses fils et ses filles pour que les autres soient sauvés.
Et comment est-ce qu'elle définit l'enfer? Comme une privation de Dieu, ou quelle est sa définition cette vision?
Elle le définira pas. Curieusement, elle va dire qu'elle a cette vision de l'enfer où elle est seule Elle voit personne en enfer. Elle voit simplement un lieu extrêmement restreint dans lequel elle a du mal à se tenir, avec une eau fangeuse et une espèce de souffrance indicible où, dit-elle, l'âme se déchire elle-même. Et du coup, elle va avoir une reconnaissance éperdue pour Dieu de l'avoir sauvée de cela.
C'est intéressant parce qu'elle définit pas l'enfer comme un lieu, mais comme un état, finalement.
Tout à fait.
Ce qui est plus profond, effectivement.
Bien sûr.
De même que d'ailleurs l'union, enfin le paradis en quelque sorte, est plus un état qu'autre chose. Et c'est ce qui est bien au-delà et qui est l'état de perfection. Et peut-être qu'on pourrait terminer sur quand même un poème de Thérèse qui évoque justement cette, le contraire exact de l'enfer, c'est-à-dire de se retrouver en Dieu. Et c'est très intéressant ce poème parce que ce n'est plus elle qui parle. Le jeu du poème, c'est le jeu de l'aimer.
Oui, tout à fait.
Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, dans l'amour, quand on arrive dans la dernière demeure peut-être, oui, dans l'expérience de cet amour, il se produit l'identité des essences. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'elle devient le lieu où le divin se manifeste. Et du coup, le jeu, ce n'est plus elle, c'est l'autre,
oui, c'est l'autre
qui parle à travers elle. L'amour a si bien réussi, âme, à te reproduire en moi, que même le plus grand peintre ne saurait avec autant d'art dessiner une telle image. Par l'amour, tu fus créée, belle, très belle. Et c'est pourquoi, peinte dans mes entrailles, si tu te perdais, mon aimé, tu devrais te cacher en moi. Tu devrais te chercher en moi. Car je sais que tu trouveras au fond de mon cœur ton portrait, peint de façon si ressemblante que, te voyant, tu te réjouiras de te voir si bellement peinte. Si par hasard, tu ne savais en quel endroit me trouver, moi, ne t'en va pas de ci, de là, mais si tu veux me trouver, cherche-moi en toi. Puisque tu es mon logis, tu es ma maison, ma demeure, aussi j'appelle à tout instant si je trouve fermée la porte de ta pensée. Hors de toi, ne me cherche pas, parce que pour me trouver, moi, il suffit que tu m'appelles, et à toi j'irai sans tarder, en moi. Cherche-moi en toi.
Merci Lélie et merci Didier-Marie Gollet. Je rappelle le titre de votre très beau livre sur Thérèse d'Avila, Atlas Thérèse d'Avila, aventurer sa vie aux éditions du Cerf. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Onvar. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.